La différence entre prendre du temps et trouver le temps. Je pense qu'hier, voilà, pour ceux qui étaient là, la majorité d'entre vous, quand on parle des disciplines spirituelles, pour moi, c'est toujours la prudence que j'ai, parce que j'ai pas le temps, ou c'est quelque chose en plus, ou c'est... Et voilà, j'ai peut-être passé un peu trop de temps hier à mettre en garde, mais en tout cas, pour moi, c'est tellement essentiel de se dire, si on voit ça comme un devoir où il faut rajouter, ça ne va pas le faire. D'un autre côté, et c'était là où je m'en suis arrêté hier soir aussi, qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui dépend des autres? On peut se plaindre de plein de choses sur lesquelles on n'a aucune action. Et passer sa vie à se dire si, 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 si. Mais je pense que là, on est en train de toucher à quelque chose, justement, qui relève de nos décisions. Qu'est-ce que je fais du temps que Dieu m'a donné? Et qu'est-ce qui va faire que je peux réorienter mes priorités? Dieu ne nous demande pas d'en faire plus. Ma femme, vous connaissez, quelques-uns la connaissent, Alison, c'est quelqu'un de discret. C'est, alors, s'il y a Marthe et Marie dans le couple, moi j'ai appris à ralentir quand je suis encore à 10 bornes de la maison. Quoi. Mais elle m'a acheté ce livre, un livre de dévotion, alors c'est en anglais, peu importe, « A Year of Slowing Down », une année pour ralentir. Et alors, c'est peut-être parce qu'elle m'a acheté ça, alors c'est très très bien, elle me connaît bien évidemment, et c'est aussi parce que je suis en fin de parcours, au niveau alors, professionnel, même si je suis cultuel, mais voilà, dans un peu plus d'un an, j'aurai 65 ans, et j'ai décidé qu'à 65 ans, c'était bien d'arrêter tout ce qui était de l'ordre des responsabilités nationales. Alors peut-être c'est ça, il y avait ce petit message aussi, Pierre, il faut que tu apprennes, parce que dans un an, ça va être le grand vide. Alors ça ne sera pas la retraite, mais ça va me changer la vie. Mais c'est vrai qu'apprendre à ralentir, c'est terrible hein, d'avoir à tenir ce genre de propos. Et alors voilà, comme je l'ai dit, hein, je suis le premier à avoir besoin de cela. C'est intéressant d'entendre ton témoignage. J'ai été le secrétaire de Ralph Chalice hein, en 1984 jusqu'à son décès avec Alison. C'est comme ça qu'on est arrivé en France, 2 ans avec Ralph. Et voilà, notre parcours, il a été aussi ce qu'il a été. Mais, ouais, prendre le temps, c'est pas trouver le temps. Et puis, quelque part, ça dépend de moi. Alors, pour vous mettre à l'aise, peut-être pour me mettre à l'aise, donc mon diaporama est complètement nul. Normalement, le diaporama, c'est fait pour soutenir votre discours. Et moi, c'est juste du texte qui aide simplement ceux qui prennent des notes. Donc ça, je ne vous demande pas du tout de prendre les notes. C'est juste pour dire qu'il y a une biographie et que si vous la voulez, et ben voilà, c'est la slide suivante. Vous m'écrivez, je vous la donne et je vous enverrai même toutes mes notes. Comme ça, ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Et puis encore une fois, prenez ce que vous pouvez. Peut-être c'est une phrase. Peut-être c'est un verset, peut-être c'est un mot, et c'est très bien. Voilà, hier, j'ai commencé avec la question de la motivation. On n'a pas pu prendre l'adresse. pierrebarito@crf.net. Tout ce qui finit par crf.net, ça arrive chez moi, de toute manière. Entente évangélique, congrès, bref, ne faisons pas de pub. Pourquoi on fait les choses? La question de la motivation. Et on a parlé de David et ce désir d'être dans la présence de Dieu. Et je crois que là encore, trouver le temps, c'est certainement lié au plaisir qu'on a. Et c'est peut-être cette dimension qui nous manque dans notre relation avec Dieu. Ce plaisir, cette joie que procure le temps qu'on peut passer avec Dieu. dans mon emploi du temps que j'aime être surchargé, l'inactivité m'angoisse. Vous voyez, juste pour vous situer le personnage. Je ne peux pas m'arrêter, c'est juste pas possible. Mais je me suis rendu compte que si je ne prends pas... Alors, je suis un lève-tôt, ce n'est pas du tout une qualité, hein, c'est juste comme ça. Vous êtes du soir, vous êtes du matin, ce n'est pas un problème. Mais moi, dormir, c'est un peu un problème, justement. Donc, j'ai aucun problème à me lever tôt. Mais si, le matin... Alors, mon café... Le journal sur le portable, puis ma Bible, mon fauteuil pendant l'hiver. L'été, j'ai un petit endroit dehors qui est hyper simple. On est dans des situations, encore une fois, privilégiées. J'ai plus d'enfants à la maison. On a les chicoufs qui arrivent là. Et c'est vrai que je me rends compte à quel point on est devenu impatient. Parce que ma petite routine, vous voyez, on aime beaucoup les petits-enfants. Hein. S'ils pouvaient dormir un chouïa plus longtemps pour que... Mais c'est vraiment... voilà. Et si j'ouvre pas ma Bible, si j'ouvre mon ordinateur avant ma Bible, je n'ouvrirai pas ma Bible de la journée. Je ne me sens pas coupable. Voilà, je ne suis pas sur Internet hein, pour chercher des vieux amis. Hein. Un point partout. Mais c'est juste comme ça. On est absorbé, n'est-ce pas, par notre activité. Mais une maman, aujourd'hui, c'est juste... voilà, t'es pas... Qu'est-ce qui... Quand je dis prendre le temps, qu'est-ce qui dépend de toi? Donc, si on ne trouve pas ces moments, quels qu'ils soient... Et des fois, ça va être... une minute volée ici, à droite, à gauche. Chacun va le gérer comme il peut. Mais en tout cas, pour moi, je sais que c'est ce moment de pacification dans ma tête. Et de commencer la journée, voilà, avec ce temps où je peux dire au Seigneur, et parle-moi. Et comment je vais passer cette semaine par ta grâce. La motivation, désirer Dieu, goûter combien le Seigneur est bon. Vous voyez, on est loin de l'exercice aride, je l'ai un peu caricaturé hier, lire la Bible en un an. Alors voilà, je ne suis pas un disciple de Ralph, j'ai juste travaillé avec lui, mais j'ai coché mes cases. Et je me sens pas mal parce que j'ai un an et demi de retard sur mon plan de lecture cette année. Mais je vais bien. Tout va bien. Parce que j'ai le droit de m'arrêter sur un passage. Vous avez aussi le droit de sauter des chapitres hein, dans votre lecture de la Bible. Hein. C'est terrible parce que Genèse, ça va. Exode aussi. Ouais. Et généralement, on cale après. Hein. Mais c'est bon. Et après, les généalogies, c'est passionnant, les généalogies. Mais vous n'êtes pas obligé de les apprécier. Ce n'est pas un péché si vous sautez des chapitres. Mais peut-être qu'il faut mieux s'arrêter sur un verset pendant une semaine que de lire quatre chapitres qui ne nous apportent rien. Des moyens de grâce. On n'est pas en train de chercher la faveur de Dieu. On est simplement en train de se placer, à se mettre dans cette disposition où on est prêt à recevoir de la part de Dieu. Dieu donne, Dieu est un Dieu qui donne. Et Dieu est toujours à l'initiative du don. Ça traverse toute la Bible. Les disciplines spirituelles ne font rien en elles-mêmes. Mais elle nous amène à l'endroit où quelque chose peut être fait. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont demandé quelles étaient les quatre disciplines que l'on ne va pas voir. Bon, j'attendais un haut de... même pas. Donc hier, on a un tout petit peu parlé de la simplicité, le silence. Est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez trouver le silence. Et le silence, c'est de plus en plus difficile à en trouver, parce que même quand il n'y a pas de bruit, faire le silence dans sa tête... Moi, c'est pareil, vous voyez, là, cet engin-là, c'est tellement facile, les amis, de s'en débarrasser. Je ne parle pas du mode avion, hein, parce que le mode avion, on a vite fait quand même de... Avec, je ne sais plus à qui j'en parlais hier, c'est dans ma bibliographie, mais ce petit livre-là, une philosophie, c'est très intéressant parce que ce gars, une philosophie pratique pour vivre, pour construire une bonne vie à l'âge du numérique. Bon, c'est en anglais, peu importe, il y a plein de bouquins maintenant là-dessus. Il n'est pas contre le numérique, mais il se rend compte à quel point le téléphone portable est devenu quelque chose d'envahissant. Et moi, je me rends compte, quand je vais me promener, tu parlais d'observer la nature aujourd'hui, tu as deux options. Tu laisses le téléphone à la maison ou tu le prends dans ta poche. Et quand je vais me promener avec ma femme, j'envoie un message. J'ai envie de parler avec toi ou je suis en train de suivre le résultat du match de foot ou du Grand Prix ou ceci. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Hein, je veux dire, voilà, moi, si j'ai le téléphone à côté de ma Bible, je suis juste capable de résister. Mais c'est très simple d'oublier son portable et vous êtes libre. Le silence, la discipline du silence, être calme. Je me souviens de Jess quand on faisait de la spéléo et qu'au fond de la grotte, on demandait à tous les ados d'éteindre la lampe et de faire le silence. Et il y a quelque chose d'angoissant. Hein, et voilà, ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas, c'était une belle expérience. Le bruit et les foules font en sorte de siphonner notre énergie et d'occuper notre attention de telle sorte que la prière devient un bruit supplémentaire plutôt qu'un soulagement réconfortant. C'est tout ce que je dirais sur le silence. La solitude. On n'est pas tous égaux encore, là. Je ne sais pas dans quelles conditions vous habitez. J'ai eu, dans mon passé... une expérience, je travaillais, alors je ne suis pas du tout un travailleur social et je suis né dans un milieu favorisé, mais lorsqu'on était à Bagnols-sur-Cèze et qu'on faisait de l'évangélisation, pour justement rentrer dans les quartiers, j'ai fait de l'aide aux devoirs dans un centre social, je suis devenu président du centre social, et j'ai compris, c'est intéressant de comprendre les conditions dans lesquelles vivent ces jeunes, qui n'ont évidemment pas un bureau pour travailler chez eux, mais même pas un lit, puisque les grands sont sur le palier la nuit pour que les enfants... Et tu te dis, voilà, alors je ne dis pas que c'est notre contexte, mais on n'est pas tous égaux par rapport à ces moyens. En tout cas, voilà, trouver des endroits où on peut être seul, c'est aussi salutaire. Et Jésus est l'exemple par excellence. Dieu lui-même s'est mis à l'écart. Et là, je pourrais, dans les notes, vous verrez toute la liste des moments, en fait, où il a choisi de se retirer et d'emmener aussi ses disciples avec eux à l'écart. Et puis, le dernier, c'était la discipline de l'abandon, s'en remettre à Dieu. Pour toute chose. Dieu attend patiemment que nous nous attachions à lui, que nous arrêtions de le combattre, que nous permettions que son plan se déroule, que nous nous tournions vers lui pour trouver notre sécurité et un sens à notre vie. Pourquoi nous faut-il tant de temps, justement, pour réaliser ces choses ? Voilà, je vous ai raconté un petit peu de ma vie hier. Voilà, c'est des temps salutaires. où Dieu nous fait passer par le creuset de l'épreuve. J'aime bien l'image de l'entonnoir. Vous savez, dans votre vie, vous avez des moments où vous êtes dans un entonnoir. Et tu te dis, quand tu vois le trou par lequel tu dois passer, tu te dis, ça va être compliqué. Et ça fait plein de choses, hein. Moi, c'est généralement mon emploi du temps. Je dis, comment ça va se passer? C'est juste pas possible. Et puis voilà, et alors, finalement, tu vois, tu es compressé, malaxé, déformé, et finalement, tu sors de l'autre côté. Mais l'avantage de ça, l'avantage, c'est qu'en fait, tu as une autre forme quand tu sors. Oui, vous voyez, mes images, elles sont ce qu'elles sont. Mais pour moi, ça me parle. Trouvez vos images. Mais je remets ces entonnoirs au Seigneur, tu vois, et tu dis, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. Je suis tellement dans le contrôle. Mais quand on a des responsabilités, quand vous êtes appelé à prendre des décisions, et vous voyez, cette tension-là, elle est là, elle est là. Et se dire, Seigneur, tu es souverain. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation? Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Mais on a besoin de ces temps où on est seul face à face avec Dieu et on peut juste déposer ces choses devant lui et surtout entendre sa voix dans ces moments. Alors, je voulais parler de la méditation. Alors ça, c'est tout un chapitre. Et je vais le survoler parce qu'il me semble que la méditation, c'est quelque chose dont on parle peu, et en tout cas qui n'est pas beaucoup enseigné dans nos milieux. On parle de lire la Bible, et c'est très bien. Il y a plusieurs lectures de la Bible, hein, aussi, ouais, vous verrez ça dans mes notes. Mais je pense que notre première lecture de la Bible, elle est souvent quand même pour remplir notre tête. Alors c'est vrai que la Bible est un grand livre, hein, un gros livre, ok, c'est comme ça, Dieu a choisi de se révéler au travers de cette parole. Et la méditation est vraiment cette capacité à écouter Dieu. Le meilleur mot pour parler de méditer, c'est ruminer. Alors, bien, ça commence par une lecture, et puis après on se pose et on rumine. Vous voyez, c'est Marie qui repassait dans son cœur. Mais c'est pas repasser, d'accord, hein? Et dans chaque utilisation du mot « méditer », l'accent est mis sur le changement de comportement. Parce que notre rencontre avec Dieu va avoir un impact sur notre vie. Changement. Et la repentance, ça y était déjà, la repentance et l'obéissance sont des éléments essentiels pour comprendre la méditation. Vous connaissez tous le psaume 119, on va le lire rapidement. D'ailleurs, il y a une lecture de la Bible, alors je vais passer comme ça, je vais vous donner plein de petits flashs, mais peut-être qu'on ne pratique pas assez, justement, c'est la lecture communautaire. Dans nos programmes d'église, il me semble qu'il n'y a pas la place pour la lecture communautaire. Il me semble que Paul dit ça à Timothée, et que c'est des bons exercices. Vous savez, il n'y a pas qu'arrive là. Et alors voilà, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Hein. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas sur le ton de reproche ou d'honneur de leçon, mais c'est juste de se réunir et on va se prendre, on va lire les évangiles et la passion du Christ. Et on croit que la parole de Dieu est vivante et agissante, n'est-ce pas? Cette parole suffit, la lecture de la parole. Les catholiques, je suis d'origine catholique. Beaucoup de choses en commun. C'était un peu plus violent chez moi. J'étais carrément mis à la porte de la maison. Donc la rupture, elle a duré plus de 15 jours. Mais les catholiques lisent plus la Bible que nous dans leur culte. Il y a toujours trois lectures. on n'est pas dans du qualitatif, mais c'est vrai que, voilà, réfléchissez, vous réfléchirez là-dessus. Le psaume 119, « Je garde ta parole, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et la méditation de la parole, qui est liée aussi à la mémorisation des Écritures, je ne sais pas si vous avez mémorisé aussi les Écritures, mais le meilleur moyen qu'on a de méditer la parole, c'est de la mémoriser. En fait, dans les situations de nos vies, toute la parole qu'on a mémorisée, Dieu, le Saint-Esprit, il a une réserve extraordinaire pour nous parler, nous donner le mot au bon moment, n'est-ce pas ? Je serre la parole dans ton cœur, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bon, il y a trois versets dans le psaume 119 où il n'est pas question de la parole. Ah, j'espère que je vous ai donné envie de lire le psaume 119. La méditation est la capacité à entendre la voix de Dieu et à obéir à sa parole. Entendre la voix de Dieu et obéir. Il y a des tas d'exemples dans la Bible d'hommes. Voilà, j'aime bien citer l'exemple d'Isaac qui va méditer dans les champs. Et qu'est-ce qui arrive ? Rebecca ! J'aime bien dire ça aux célibataires. Bon, après, il paraît que méditer dans le contexte là, ça veut dire qu'il allait faire ses besoins, mais c'est traduit méditer dans ma Bible et j'en reste là. J'ai été très déçu le jour où il y a quelqu'un qui m'a dit ça. On a plein de choses à apprendre dans la parole, n'est-ce pas ? Pourquoi méditer ? La présence du Seigneur se transforme d'un dogme théologique en une réalité radiante. Je comprends qu'on peut avoir des réticences sur la méditation. Aujourd'hui, on parle de la méditation de partout, n'est-ce pas ? Alors voilà, j'ai aussi tout un chapitre là-dessus. Mais la méditation dont on parle dans le monde, les méditations, ont un objectif. C'est de te trouver toi, c'est tout centré sur toi. Un développement personnel, un nouveau stade de conscience, de nouvelles potentialités. C'est toujours le moi qui est mis en... C'est pas de ça dont on parle, les amis. Absolument pas. Il y a même des chrétiens qui parlent de la méditation en pleine conscience. Okay. Mais là encore, l'important, c'est le but de la méditation. Est-ce que c'est pour un approfondissement de notre foi en Christ ? Est-ce que c'est pour ouvrir cet espace de paix où la parole de Dieu peut faire son chemin en moi ? Et on ne médite pas à partir de rien. C'est tout sauf faire le vide, méditer. On médite principalement à partir de la parole de Dieu. En préparant un lieu de rencontre. Donc je ne me fais pas du silence pour me faire du bien, même si c'est le cas, mais pour ouvrir un espace où Dieu peut se révéler, me parler dans une parole de consolation, d'encouragement, d'engagement, mais aussi une parole qui relève mes fractures, mes faiblesses, mes péchés. Et quand on est confronté à la parole, comme un miroir, eh bien, ça nous aide aussi à prendre en considération, effectivement, nos failles dans nos vies. On ne peut pas faire l'économie de cela, n'est-ce pas ? Alors, méditer à partir d'un texte, je vais très vite, c'est peut-être le plus simple. Il y a plein de manières de méditer. Alors, la nature, moi j'aime bien les films de Perrin, ça vous dit quelque chose là ? C'est magnifique, c'est pas près les seuls films que je vais voir au cinéma, mais bon, il est décédé il n'y a pas longtemps, mais vous allez voir Océan, et là tu en prends plein les yeux quoi. En fait, c'est beau. Et les gens, ils ne se demandent pas pourquoi c'est beau. ou si c'était arrivé par hasard, ça aurait pu être moche. Il y a des couleurs. Non, mais c'est vrai, c'est du béaba, n'est-ce pas? Une fois, quand je suis allé en Guyane, t'as 9 heures d'avion sur la mer. Tu dis, oh, c'est grand. Mais c'est vrai, on est réducteur hein, dans notre manière de voir les... Et quand on est triste, hein, quand on ne peut plus s'émerveiller de la nature, d'une fleur, de ses petits enfants. Bref, méditer à partir de la nature. J'ai un beau livre. Je vous invite vraiment à lire ça. C'est pas la Bible. Dieu des fourmis, Dieu des étoiles. Rémi Chauvin, il y en a qui connaissent ce bouquin. C'est juste les incohérences de la nature. Mais c'est juste incroyable. Et voilà, même pour vos amis non chrétiens, c'est juste incroyable. Et tu vois Dieu dans toutes les pages. Alors c'est un biologiste hein, qui écrit, mais c'est fabuleux. Donc méditer la nature, ça c'est évidemment excellent. Mais on médite la parole. Alors je vous donne juste un petit truc, je vous ai dit que je ne vous donnerai pas de recette. Mais simplement pour commencer la méditation, si vous avez jamais, vous n'êtes jamais arrêté sur un texte pour le méditer, la première chose c'est de se dire que dit ce texte. Donc là c'est faire du français. Hein? Voilà, le sens du texte, premier, est-ce que j'ai bien compris? Ensuite c'est qu'est-ce que ça veut dire ce passage au niveau spirituel? Quel est le message de... Donc vous voyez, on est déjà dans une deuxième lecture, après avoir compris le texte simplement avec notre intelligence, le sens littéral, on va dire, tiens, quel est le sens spirituel de ce texte? Et puis ensuite, on va l'appliquer. Où est-ce que ça vient me rencontrer dans ma vie, dans ma situation? Ça vous arrive, ça, vous lisez la Bible, et puis d'un seul coup, oui, vous êtes déjà arrivé. Vous ne l'avez jamais lu auparavant, mais c'était comme si, cette fois-ci, je pourrais vous raconter aussi quelques témoignages là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et il n'y a pas de mal, on est dans une lecture beaucoup plus subjective ici, on n'est pas dans l'étude, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce passage vient rencontrer dans ma vie? Et puis, on va plus loin, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez? Et ça peut être, tu parlais de méditer les attributs de Dieu. Alors, mon épouse, encore une fois, elle a un super truc... Vous savez, je ne sais pas ce que vous faites pendant les veilles de la nuit. Je médite sur toi pendant les... Vous connaissez ce verset-là? C'est la première chose que vous faites hein, quand vous vous réveillez en pleine nuit, n'est-ce pas? Hein? Généralement, ça se passe très, très bien. Alors, Alison, elle m'a appris un truc. Elle m'a dit, c'est très simple, en fait. Tu prends l'alphabet et avec chaque lettre, tu cherches un attribut de Dieu. A pour admirable, aimable. B pour... Alors ne vous inquiétez pas pour le W et le Z, vous n'y arriverez jamais. Vous dormirez bien avant. Mais voyez, c'est des choses très simples. Et plutôt que de penser aux factures, à ce que tu vas faire demain, machin... Ouais, il y a le bout de papier aussi, le stylo sur la table de chevet, c'est très bien. Bref. Voilà, quelques petites choses. Et ça, c'était médité. C'est très court, je suis désolé. Mais je voulais quand même ce matin, finalement, dans le quart d'heure qui me reste, on est toujours d'accord avec ça? J'ai mis le chronomètre en route. Parler de la prière. Et quand on parle de la prière, n'est-ce pas, on se réjouit, on se dit, oh, c'est top. La discipline de la prière. Je ne sais pas ce que ça suscite en vous, prier. Prier, c'est changer. C'est l'avenue principale que Dieu utilise pour nous transformer. Et je vous propose, alors pas un cours sur la prière, mais justement par rapport à ce que même j'ai dit très courtement, c'est de réellement ancrer la prière dans la lecture et la méditation. Lecture de la Bible, méditation, et je dirais presque naturellement, cela devient prière. Alors, vous connaissez le... J'ai ma caisse derrière, là. Voilà. Ça aussi, c'est un must, hein. La prière renouvelée de Don Carson. C'est aussi très, très facile à mettre en œuvre. Moi, quand j'avais fait ça à USES, J'avais imprimé tout simplement les prières du Nouveau Testament, les prières de Paul dans le Nouveau Testament. Voilà, et puis vous lisez ces prières et vous priez ces prières. Et alors ça change la liste des courses. Hein. Je ne sais pas comment vous alimentez votre vie de prière, hein, mais des fois c'est quand même un peu... Bref, je ne parle pas de la prière non plus communautaire, d'information. Je te prie pour un tel qui vient de se casser la jambe, mais comme sa grand-mère était là. Et tout. Est-ce que Dieu est au courant de ça ou est-ce qu'il faut vraiment lui dire, lui donner tous les détails? Bref, je caricature, mais ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un livre clé. Parce qu'on voit que les prières de Paul ont vraiment un objet, une direction, une théologie, une eschatologie. Et ça nous réconcilie vraiment, en tout cas, avec la prière. Donc, ancrer la prière dans la lecture et la méditation. Trois lectures de la Bible, je n'ai pas vraiment le temps, mais c'est vrai que c'était pour dire qu'on ne reste pas sur une lecture informative ou d'étude, mais justement une utilisation aussi méditative, où on se met dans cette disposition où on est à l'écoute de Dieu et à la prière. Le témoignage de où est-ce que c'est, d'un homme de prière, vous avez souvent certainement été découragé par cette biographie de Georges Müller, n'est-ce pas? Plus il avait à faire, plus il se levait tôt. Et... C'est bien. Prier sans cesse, n'est-ce pas? Allez, tu pries pas assez. Tu as dû entendre ça, n'est-ce pas? Tu confesses pas assez. C'est ça ton problème. Voilà ce qu'il dit. Georges Müller, homme de foi et de prière s'il en fut, parle de son expérience personnelle. Pendant de nombreuses années, une fois levé et habillé, il passait un long moment dans la prière, faisant toutefois l'expérience d'une prière souvent distraite par une infinité de choses. Il décida un jour de commencer son temps de méditation par la lecture de la parole, s'arrêtant longuement sur chaque verset, y cherchant une parole qui nourrisse son âme et donne sens à sa journée. Comme il le rapporte dans son journal, « La première chose que je fis, après avoir demandé en quelques mots la bénédiction du Seigneur sur sa précieuse parole, fut de la méditer. » Je m'appliquais à trouver une bénédiction dans chaque verset, non pas en vue de ministère public de la parole, ni en pensant à de futures prédications, mais dans le seul but de nourrir mon âme. Le résultat, presque constant, c'était que je me trouvais conduit à la confession ou à l'action de grâce, à l'intercession ou à la supplication. Ainsi, bien que je ne me donne pas à proprement parler à la prière, mais à la méditation, je me retrouvais plus ou moins vite en train de prier. Une petite piqûre quand même de culpabilisation, mais c'est Don Carson qui le dit. Que vous soyez mère d'enfant turbulent qui pompe toute votre énergie. C'est Don Carson qui le dit, c'est pas moi, hein, je n'oserais pas. Cadre supérieur dans une multinationale, étudiant à la veille d'échéances décisives, plombier effectuant des heures supplémentaires pour payer les études de vos enfants, pasteur d'une grande église pour laquelle vous faites 90 heures par semaine, ça n'existe pas chez nous. Finalement, si vous n'avez pas le temps de prier, c'est que votre emploi du temps est trop chargé. Supprimez quelque chose. Bon, voilà, pour nous décourager, c'est bien. Les disciples ont demandé à Jésus comment prier. Et je voudrais qu'on lise ensemble cette prière de Matthieu 6, cette réponse de Jésus plutôt à la question des disciples, d'un disciple. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Jésus invite ses auditeurs à rechercher dans le secret du cœur le lieu de la rencontre intime. Il s'agit de prendre du recul, de se couper des bruits, de l'agitation du monde extérieur, de faire silence. Vous voyez qu'il y a là une démarche. une volonté. Face au stress, à l'agitation, apprendre à se poser, à faire silence, à trouver son calme. Et Jésus nous y invite ici. Cet enseignement de Jésus, il n'est pas adressé simplement à ses disciples, mais à tous ceux qui veulent l'entendre. Cela a une portée universelle. Il ne parle pas à des spécialistes de la prière, mais à des hommes et des femmes en recherche de silence. Il ne parle pas comme un maître spirituel qui dit la bonne la manière, la formulation. Ce n'est pas la réponse à un questionnement, c'est un enseignement général sur l'éthique du royaume. Et avant de parler, d'enseigner le Notre Père, il introduit avec ce verset. Donc ce n'est pas un enseignement sur la prière, mais une prière qui va faire Père, qui va dire plus tard. Il ne dit pas non plus comment prier, est-ce qu'il faut être debout, à genoux, les mains levées. Il ne parle pas non plus de mode, de type de prière, confession, adoration. Et puis, c'est une prière qu'il adresse à la deuxième personne du singulier. Entre dans ta chambre, pratique de la piété. Il a dénoncé la prière publique, vous savez, qu'on fait pour être bien vu. D'ailleurs, moi je m'interroge souvent, hein. Je m'écoute prier. Je dis, pourquoi il y a une telle différence entre ta prière du dimanche matin public et puis quand tu es tout seul dans ton fauteuil le matin? Ça interroge. C'est normal. Je dis, on fait peut-être un peu plus attention à la grammaire, à la manière dont on parle, et ainsi de suite. Mais quand même, à qui on parle finalement? Vous voyez? Et c'est pour ça que Jésus ici, il parle, il n'est pas dans le collectif, mais dans le personnel, pour toi. Et il va nous montrer le chemin pour arriver dans cet endroit secret. Pour toi, quand tu veux prier. On est dans une démarche volontaire. Il va y avoir des actions. C'est quelque chose qu'on a anticipé. Ça n'arrive pas par hasard. On est totalement impliqué dans cette décision de prier. Il y a une volonté claire de notre part de s'arrêter. Arrêter de nos activités. Trouver l'endroit où on va rencontrer le Seigneur. Comment y aller? Entre dans ta chambre secrète. Elle est où cette chambre la plus retirée? Alors le mot grec qui est utilisé ici décrit l'endroit où c'était le grenier à provision, le cellier. Donc ce n'est pas la pièce principale de la maison, c'est un lieu retiré. Un lieu où on est à l'abri des regards et justement pas à la synagogue, au carrefour des rues. Où elle se situe? Alors pour vous, j'en ai un tout petit peu parlé aussi. À chacun de trouver ce lieu. Et voilà, des fois ça va être s'enfermer dans un endroit où on va être tout seul, peu importe. Mais il nous faut trouver cet espace préservé et réservé. C'est aussi un lieu secret dans notre cœur, ce moment où on est prêt à se mettre face à face avec Dieu pour le rencontrer. Et c'est vrai que ça peut être aussi, maintenant on a aussi des moyens technologiques, on a des casques anti-bruit, on peut être au milieu de la foule finalement, et peut-être trouver aussi ce temps où on est seul. Verrouille ta porte et adresse à ton Père qui est là, et adresse ta prière. On est passé d'un endroit à l'autre, d'un état à l'autre. Vous savez, c'est pas l'idée de simplement entrer dans cette pièce, mais il y a aussi l'idée de s'enfermer, de verrouiller cet endroit. On a tout laissé dehors, et on va pas se laisser déranger par quoi que ce soit. Parce que c'est un temps de rencontre privilégiés qu'on veut protéger. Alors, je vous ai parlé de mon portable, mais pour moi, c'est typiquement ça. Un endroit où on ne va pas être détourné du temps qu'on veut consacrer à cette rencontre. Je dois dire que, alors je vous raconte encore ma vie, mais quand ma femme a fait ça, je me sens un peu exclu, quoi. Mais heureusement qu'elle fait ça. Et vous savez, on vit des... Tous les deux, il faut qu'on fasse ça. Alors c'est bien de prier ensemble, mais chacun doit aussi entretenir ce moment où tu dis, ça c'est mon espace avec mon Père, et il est à moi. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on va dans cet endroit où on a l'impression que c'est nous qui avons tout mis en œuvre, n'est-ce pas, pour y arriver? Qu'est-ce qu'on découvre? Que notre Père nous y attend. On ne lui a pas dit, viens avec moi. C'est là qu'il est et qu'il nous attend. Il était là avant moi. Vous voyez la richesse de cette promesse? Chaque fois que je m'arrête pour prier, mon Père est là qui m'attend. Alors, c'est pas pour ça que vous allez avoir des frissons. Ok, on est pas, c'est pas de ça dont on parle. Hein. S'il y a quelqu'un qui n'est pas mystique, c'est moi. Mais cette pensée, elle est juste magnifique. Ton Père qui est là dans le secret. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ton Père qui est là dans le secret de ta chambre, c'est vrai, qu'est-ce qui a marqué? Tiens, il te... Il n'a pas dit qu'il t'entend. Il te voit. Et il a vu ce cheminement. Il a vu ce désir de ton cœur d'être devant lui. Vous savez, la prière, ce n'est pas parler. Ce n'est pas que parler. D'ailleurs, Jésus le dit, n'est-ce pas? Il sait ce dont nous avons besoin. Avant, ça sert à quoi donc de lui demander? Oui, enfin, c'est, je suis désolé, hein, mais... Donc, ce n'est pas pour Dieu la prière. Il le sait déjà. C'est pour nous. Chaque fois que je fais connaître mes besoins à Dieu, je ne lui dis pas « t'as oublié quelque chose ». Je lui dis « j'ai besoin de toi ». Ton Père qui voit dans le secret, en silence, il écoute, il t'entend. Peut-être que ton cœur est trop lourd pour parler, qu'il y a trop de souffrance, de chagrin. Vous savez, dans ces moments-là, avec qui on disait, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est en fin de vie? On se tait. Il y a des moments où il ne faut mieux rien dire, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'art de dire des bêtises. Dans ces... quand je visitais les personnes âgées, c'est vraiment pas mon truc, je suis désolé, je vais encore vous choquer. Mais voilà, la première chose que je dis à une personne qui est âgée, enfin, ça ira mieux demain, quoi. Non! Non! Mais ouais, je suis désarmé. Bon, j'ai appris, hein, c'était il y a quelques années, mais quand même, je ne suis pas très doué dans ces situations-là. Mais simplement lui dire « notre Père ». Vous savez, notre attitude, elle est importante aussi. L'attitude de nos mains, prier les mains ouvertes. Notre Père, mendiant, heureux dans sa présence, heureux d'être simplement là, dans un dialogue cœur à cœur. Prier, c'est écouter. Alors, je suis conscient que c'est... Là, je suis à 45 minutes, j'ai 25 secondes. Et donc, je vais passer tout le reste. Je voulais juste finir avec ces deux versets. Jésus sur la montagne avec ses disciples. Alors Pierre, il dit beaucoup de bêtises. Il est bon que nous soyons ici. Là, c'est bien. Il commence bien. Après le coup des trois temps de ses moyens, parce que, vous voyez, eux, ils vont coucher à la belle étoile. Enfin, moi, ça me fait... C'est énorme, quoi. Bref, c'est du Pierre. Mais il est bon que nous soyons ici. Et puis la réponse du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Vous voyez, cet endroit de rencontre où on veut demeurer, finalement, nous mène vers le Fils, dans l'obéissance à ce qu'il nous dit. Et puis encore un verset qu'on utilise, alors j'assume aussi le fait qu'il est hors contexte, il est question dans Apocalypse 3 des églises et pas des individus, mais ça marche. Vous avez tous connaissez ce tableau avec une porte où il y a une poignée que d'un côté. Mais c'est de ça dont on parle ici. Parce que le désir du Père, le désir de Dieu, c'est de manger avec nous. Beaucoup, la fin de Jean 21, ça se finit avec un barbecue sur la plage. Venez manger. Et c'est ça la communion. J'ai commencé hier en parlant avec cette phrase qui disait « Il est plus facile de trouver des ouvriers pour travailler que des enfants pour festoyer. » Que notre temps pour Dieu, que notre temps avec Dieu soit un temps de rencontre, un festin, une joie, un plaisir. Avec l'assurance que Dieu est toujours là, présent, à nous attendre pour ce moment. On n'a pas besoin de chercher quelque chose de particulier de la part de Dieu. Il est là et il nous attend. Et donc le temps pour Dieu, le temps avec Dieu, eh bien, c'est vraiment découvrir cette dimension de notre relation avec le Père. Où, en dehors de l'agitation de nos vies, on apprend à faire silence et à écouter sa voix. Et c'est ce qui va nous transformer de l'intérieur. On prie ? Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais de quoi nos vies sont faites. Mais Seigneur, je suis convaincu que notre plus grand besoin, c'est de te connaître. Et de te connaître, Seigneur, pas simplement avec nos têtes, mais au plus profond de nos êtres, dans chaque situation que nous vivons. Seigneur, tu es toujours avec nous, on le sait. Mais Seigneur, je te prie que tu nous révèles dans nos vies, dans nos agitations, dans nos emplois du temps, dans notre fort intérieur, Seigneur, à trouver ces endroits de silence, de solitude, de repos, de tranquillité, où nous nous mettons à ta disposition pour que tu nous parles. Seigneur, merci pour la communion fraternelle, merci pour tous les temps d'échange que nous pouvons avoir, merci pour la richesse des enseignements et tout ce que tu nous fais, que tu nous donnes en communauté. Mais je te prie aussi, Seigneur, que tu nous apprennes à passer ce temps avec toi dans le lieu secret, à te laisser poser ton regard sur nous, sur nos vies, pour apprendre de toi. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Merci parce que tu as ouvert la porte. Merci parce que ce lieu de rencontre est possible en Jésus-Christ. Seigneur, permets-nous de goûter à cela, par grâce et par grâce uniquement, au nom de Jésus-Christ. Amen.